Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler cette semaine du problème du gaz en France, du gaz combustible, avec notamment l'arrivée des méthaniseurs dans nos campagnes. Qu'est-ce qu'il faut en penser, surtout les bonnes questions à se poser? Alors, je ne vais pas répondre à toutes les bonnes questions à se poser cette semaine. Je vais me contenter de faire un panorama de tous les domaines de réflexion. Alors, ces méthaniseurs agricoles qu'on nous présente comme des substituts pour notre indépendance énergétique par rapport à la suppression du gaz russe, etc., par rapport aussi à une solution pour nos agriculteurs, donc on va essayer de tout balayer. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est la bonne solution pour nos agriculteurs? Est-ce que c'est polluant? Est-ce que c'est dangereux? Voilà un petit peu ce que je vais essayer de débroussailler sous forme de questions, surtout cette semaine. Alors, il faut d'abord revenir sur cette provenance du gaz pour la France. Le gaz de lac au pied des Pyrénées est, semble-t-il, épuisé. Donc, on n'a plus nos propres ressources de gaz combustible. Alors, il y a des chiffrages qui varient selon les sources et les années, mais ce qu'on peut dire tout de même en tendance, c'est que le gaz russe, qui était la première source d'approvisionnement avant le début de la guerre en Ukraine, a fortement chuté. Alors, il n'y a pas de boycott, puisqu'il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins de ce gaz russe, qu'on appelle gaz russe, par rapport à ce conflit en Ukraine. Donc la question, c'est fin du conflit en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, aujourd'hui, le premier fournisseur pour la France est devenu donc la Norvège, pour 36%, tout de même, c'est assez important. On a l'Algérie, on a les Pays-Bas, on a le Nigeria, on a le Qatar, et un petit nouveau qui est arrivé, qui a doublé son volume, c'est le gaz de schiste, tristement célèbre, parce qu'il est extrêmement polluant dans sa phase d'extraction et qui vient des États-Unis, comme quoi la guerre, ça peut servir tout de même à quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est pour l'état des lieux. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a encore du gaz russe utilisé en France, relativement peu, mais une grande inconnue en cas de conflit de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui se passe, évidemment, et on verra plus loin la question des prix, évidemment, elle est à noter sur ce sujet. Alors, on nous a parlé de l'indépendance énergétique. Alors, il y a un problème avec ce sujet-là, puisque à quelques exceptions près, on parle de EDF pour l'électricité, par exemple, et puis l'Ukraine pour ce qu'il y a dans le sous-sol, le Venezuela pour ce qu'il y a dans le sous-sol, eh bien, finalement, indépendance énergétique, ça ne veut rien dire, puisque on a tout mis dans les pattes du privé, y compris le gaz algérien aujourd'hui. Et d'ailleurs, une bonne partie du gaz qui provient de Russie, il est exploité par Total. Donc c'est les multinationales, pour faire court, qui gèrent sur la planète la quasi-totalité des ressources énergétique, et de parler donc d'indépendance énergétique pour la France par rapport notamment aux méthaniseurs, c'est quand même une grosse hypocrisie, puisque de toute façon ces méthaniseurs reversent leur gaz dans un réseau qui n'est plus Gaz de France, qui a été supprimé en 2007, ça s'appelle Terrega, le nouveau réseau, donc tout est privatisé. Donc, indépendance énergétique dans les pattes des multinationales, c'est quand même assez hypocrite de ce point de vue-là. Alors, c'est vrai en France, c'est vrai pour la Russie où tout a été privatisé, Et c'est vrai pour la Norvège, les Algériens, c'est vrai pour tout le gaz et pratiquement tout le pétrole sur la planète. Un deuxième argument, c'est, attention, c'est pour se préparer à la fin du pétrole. Alors la préparation de la fin du pétrole, c'est un sujet que je connais bien. On m'en parlait il y a une quarantaine d'années. En gros, c'est arrivé après la deuxième crise pétrolière. Et puis on a reculé les dates du fameux pic pétrolier. Alors, il y a bien sûr cet énorme problème que je mets de côté très momentanément des gaz à effet de serre, mais pour ce qui est des ressources, eh bien, les ressources, elles évoluent pour deux raisons essentiellement. C'est qu'on découvre de nouveaux gisements potentiels ou on a les techniques pour accéder là où on ne pouvait pas accéder hier, hein, puisque, je l'ai déjà dit, on va chercher du pétrole à 9 km en profondeur, c'est quand même costaud. Et puis, vous connaissez tous l'histoire du Groenland, du Venezuela, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en train de modifier sur la planète et les menaces de guerre en Iran, finalement, des propriétés, des velléités, finalement, pour s'accaparer le pétrole. Donc, on ne verra pas, en tout cas, pour les gens qui ne sont peut-être les très jeunes, mais en tout cas, on a encore des décennies devant nous avant d'avoir un véritable problème de la ressource. D'ailleurs, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, affirme que la consommation de pétrole au niveau mondial va progresser encore de 18% jusqu'en 2050. Alors évidemment, ils sont de parti pris, mais comme tout le monde est de parti pris dans l'affaire, c'est quand même à écouter. Alors, j'en viens maintenant à la place du méthane agricole dans notre pays, fabriqué donc par ces fameux méthaniseurs. En gros, aujourd'hui, les méthaniseurs agricoles en fournissent un trentième de ce qu'on consomme en gaz, avec grosso modo 800 sites de production répartis en métropole. Alors les chiffres évoluent tous les jours, hein, je vous donne que les ordres de grandeur, et on nous promet pour 2030, mais 2030 c'est dans 4 ans, c'est demain, un chiffre de multiplier, on nous dit qu'on va multiplier par 4 le nombre de méthaniseurs en France, ce qui est déjà énorme. Alors s'il y a des problèmes avec les méthaniseurs, on va aussi les multiplier par 4. Si c'est le cas, on va y venir. Et cette volonté politique ne s'arrête pas là, puisque certains documents officiels disent même qu'il faudrait arriver à 100% de produits de gaz combustible issus donc des méthaniseurs agricoles d'ici 2050. À mon avis, on est dans la science-fiction, mais néanmoins, c'est quand même des déclarations officielles qui sont faites. Alors avant d'aller plus loin, puisque le sujet est un petit peu lourd, je vous propose une petite pause musicale avec une chanson qui est pas choisi complètement par hasard, la chanson des Charlots, Petit bois derrière chez moi.
Derrière chez moi, savez-vous quoi qu'il y a?
Derrière chez moi, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a un bois, le plus joli des bois.
Petit bois derrière chez moi, et tra-lon-la, l'on-l'air, tra-lon-la, l'on-la, et tra-lon-la, l'on-l'air, tra-lon-la.
Et dans ce bois, savez-vous quoi qu'il y a?
Et dans ce bois, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a une godasse, la plus jolie des godasses,
la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi, et tra-lon-la, l'on-l'air, tra-lon-la, l'on-la, et tra-lon-la, l'on-l'air, tra-lon-la.
Dans cette godasse, savez-vous quoi qu'il y a?
Dans cette godasse,
savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a un pneu, le plus joli des pneus.
Le pneu dans la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi. Et tralala, l'olèr, tralala, l'olèr, tralala,
dans ce pneu, savez-vous quoi qu'il y a?
Dans ce pneu, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a un almanach, le plus joli des almanachs.
Un almanach dans le pneu dans la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi, et tralala, l'olèr, tralala, l'olèr.
Il y a tout ça derrière chez moi,
c'est pas possible.
Dans l'almanach, savez-vous quoi qu'il y a?
Dans l'almanach, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a sparadrap, le plus joli des sparadraps.
Sparadrap dans l'almanach, un almanach dans le pneu dans la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi, et tralala, l'olèr, tralala, l'olèr, et tralala, dans l'air, tralala.
Dans le sparadrap, savez-vous quoi qu'il y a?
Dans ce sparadrap, savez-vous quoi qu'il y a?
Il y a un sac à main, le plus joli des sacs à main.
Sac à main dans sparadrap, sparadrap dans l'almanach. Un almanach dans le pneu dans la godasse dans le bois. Petit bois derrière chez moi, c'est pas les pots d'ordure qu'il y a derrière chez toi. C'est vraiment trop dur, dur, restons pas là. C'est un dépôt d'ordure qu'il y a derrière chez toi. C'est vraiment trop dur, dur, restons pas là. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Deux kilomètres à pied, ça use, ça use. Deux kilomètres à pied, ça use les souliers. Trois kilomètres à pied.
Donc je reprends le micro pour vous reparler de la problématique du gaz combustible en France et de ses arrivées d'installations de méthaniseurs agricoles dans nos campagnes. Alors avant d'aller plus loin, je reviens quand même sur ce que sont les gaz combustibles. Alors ils ont le vent en poupe, notamment parce qu'ils polluent moins que les hydrocarbures liquides et les charbons. Mais attention, tous les gaz combustibles polluent quand même. Ils polluent quand même. Et pour ce qui est de la répartition de la consommation, on peut dire qu'un tiers du gaz combustible aujourd'hui est consommé au niveau résidentiel, un tiers pour l'industrie, après un petit peu pour l'électricité, mais moins de 1% pour le transport. Je le dis parce que c'est quand même l'histoire du GPL qui doit nous intéresser. Hein. Le GPL n'a jamais décollé en France. Il est inférieur à 1% en termes de la consommation pour nos véhicules. Et il n'y a pas de raison que le nouveau gaz qu'on appelle le GNL, gaz naturel liquéfié, qu'il soit fossile ou qu'il soit fabriqué avec les méthaniseurs agricoles, aille plus loin, d'autant plus qu'il a d'autres défauts, et je vais y venir. Alors, pour comparer ces fameux gaz combustibles, parce qu'ils ne sont en réalité différents en termes d'intérêt, eh bien, le méthane, c'est-à-dire celui qui est produit à partir, soit extrait directement du sous-sol, comme c'était le cas du gaz de lac ou du gaz russe, soit préparé, enfin, sorti à partir des méthaniseurs agricoles, eh bien, c'est ce qu'on appelle un gaz pauvre, c'est-à-dire qu'il est de moindre qualité énergétique que les gaz plus connus qu'on appelle le propane et le butane. Le butane est trois fois plus énergétique que finalement le méthane, ce qui veut dire que si vous avez besoin d'une bouteille de butane, il vous faudra trois bouteilles de méthane. C'est quand même pas terrible. Et si vous remplacez votre bouteille de propane par du méthane, il vous en faut deux à la place. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas extraordinaire. Alors, je ne parle pas de l'hydrogène puisque c'est un cas à part. C'est un gaz très intéressant. Il est très intéressant parce que lui, il n'émet strictement aucune pollution. Mais bon, la discussion serait un petit peu trop longue d'intégrer tous ces éléments dans une chronique radio. Mais simplement pour vous dire aussi que ça existe. Alors, J'en viens plus précisément à ce qu'est un méthaniseur agricole. En fait, c'est un procédé en réalité ancien qui consiste par réaction biologique à produire du méthane depuis soit des déchets organiques, des déchets d'abattoir par exemple, soit des bouts de traitement biologique, soit des sous-produits d'élevage ou d'abattoir, soit des cultures agricoles, et c'est d'ailleurs le cas en majorité pour les méthaniseurs agricoles. Alors, ils ont des tailles très diverses, et à la sortie, soit ils revendent finalement ce gaz produit au réseau ex-Gaz de France qui n'existe plus, s'il y a une tuyauterie ex-Gaz de France qui passe dans le secteur, soit ils injectent ce gaz dans une cogénération pour fabriquer de l'électricité. Donc la transformation d'électricité se fait sur place dans la même installation. Alors souvent finalement la solution injection de gaz dans l'ex-réseau Gaz de France est choisie. Voilà pour ce qui est de la fabrication. Alors on a mis beaucoup l'accent sur c'est intéressant parce qu'on valorise les déchets, ce qui est vrai. Mais les méthaniseurs agricoles ne valorisent pas les déchets, ils utilisent des produits agricoles en majorité, un peu de fumier, le fumier étant un sous-produit, hein, c'est considéré comme un engrais et ce n'est pas un déchet. Donc voilà pour la précision. Et donc il y a un hic qui fait donc discussion. Est-ce que nos produits comme le maïs, le blé, l'orge, le seigle sont plus intéressants à mettre dans un méthaniseur ou à utiliser pour l'alimentation? Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, puisque c'est déjà ça un large espace de débat. Alors, les méthaniseurs sont des installations industrielles, finalement. Ils sont classés ICPE, ce qui veut dire installation classée pour l'environnement, puisqu'ils peuvent faire l'objet de pollutions diverses, d'incendies, d'explosions. Et donc, il y a des mesures à prendre. Et ces mesures, finalement, il y a toute une série de textes réglementaires qui les pointent, avec toute une compilation d'articles de presse locaux qui montrent que les accidents et les plaintes du voisinage sont quand même très fréquentes. Donc on est là dans la polémique. Est-ce que ces risques industriels, donc je l'ai dit tout à l'heure, pollution aérienne, mais ça peut être aussi la nappe phréatique, est-ce que ces risques d'incidents, de nuisances sonores, de nuisances olfactives sont suffisamment cadré pour ne pas gêner le voisinage, parfois le voisinage lointain, je pense aux pollutions olfactives ou la nappe phréatique, ça ne s'arrête pas à quelques centaines de mètres. Donc il y a des interrogations dans ce domaine, des inquiétudes, et puis pour ceux qui sont plus proches, d'autres inquiétudes encore, qui sont la valeur de l'immobilier de leur maison et aussi l'impact sur le paysage. Alors je liste un petit peu les problèmes qui sont posés, sans dire que j'y répondrai aujourd'hui, mais c'est tout de même les questions qui sont posées. Il y a des associations qui sont créées en France précisément par rapport à ces problèmes. Et puis dans la littérature, on va lire aussi que finalement, il n'y a aucun problème. Donc on y reviendra. Alors il y a le problème des digestats. Alors les digestats, c'est quoi? C'est tout simplement ce qui va sortir du méthaniseur, puisque quand on rentre, mettons, 20 000 tonnes par an dans un méthaniseur de taille moyenne, on va ressortir 18 000 tonnes de digestats, du gaz. Bien sûr, c'est ce qu'on cherche, mais aussi de la matière sèche, dont on sait pas trop quoi faire, donc on nous a expliqué depuis quelque temps que ce digestat, finalement, c'était intéressant comme engrais. Et si vous avez 18 000 tonnes de digestat à répandre dans les champs alentours, eh bien, ça vous fait en moyenne 900 hectares à mobiliser pour disperser ce digestat. Alors, si c'est bon pour l'agriculture, ça va bien. Si c'est pas bon, c'est une autre paire de manches. Alors, il y a des trafics. D'ailleurs, les Suisses n'en veulent pas de digestat. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, tout simplement, ils vont le faire épandre en France. Donc, c'est un peu anecdotique, mais tout de même, ça montre qu'il y a des soucis derrière. Alors, il y a aussi le problème des fuites et des gaz indésirables, puisque quand on fabrique du méthane dans un méthaniseur, il y a des fuites qui sont évaluées à 2%, les estimations minimum, avec des pointes à 25% qui ont été relevées tout de même dans d'autres installations. Le méthane non brûlé étant un puissant gaz à effet de serre, donc là, il y a une question aussi à se poser. Il y a la production d'hydrogène sulfuré, qui est un gaz extrêmement dangereux, un gaz mortel, on dit aussi H2S, à petite dose, qu'on rencontre dans les puits. Les égoutiers connaissent bien ça. Et donc, à prendre très au sérieux, il est censé être brûlé généralement dans une torchère, mais on a déjà eu des accidents grave avec cet hydrogène sulfuré et des accidents mortels ailleurs. D'ailleurs, c'est la première cause de décès en France avec un gaz, c'est l'H2S. Il y a un autre problème, il y a certains méthaniseurs qui récupèrent le gaz carbonique, c'est-à-dire qu'on va séparer ce qui va sortir du méthaniseur pour, d'une part, avoir du méthane, d'autre part, pour sortir le gaz carbonique qui n'est pas intéressant. Parfois, il est récupéré, mais parfois, dans les installations de taille moyenne, il est tout simplement laissé aux petits oiseaux. On ne le récupère pas, on fabrique du gaz carbonique et on ne le récupère pas parce qu'on estime que ce n'est pas rentable. En tout cas, les concepteurs estiment que ce n'est pas rentable et ça, on l'a dans des méthaniseurs de taille moyenne. Il y a un certain nombre de problèmes par rapport à la formation réelle à la sécurité, puisqu'on va confier ce qui est une installation industrielle sensible à un agriculteur qui a bien sûr son savoir-faire à lui d'agriculteur, mais c'est tout de même une profession tout à fait différente avec des exigences. La loi n'impose pas, par exemple, qu'il y ait une personne à temps plein qui ait une surveillance à temps plein dans l'installation, ce qui m'interroge énormément. Alors, un des arguments finaux, pour en tout cas pour aujourd'hui, c'est l'argument d'une solution pour les problèmes de nos agriculteurs. Pour attirer donc les agriculteurs vers la méthanisation, il y a une série d'aides importantes qui ont été mises en place, notamment un prix en dessous les prix du marché avec une obligation de rachat finalement de la part de ceux qui distribuent aujourd'hui le gaz en France. Selon un rapport sénatorial, c'est pas moi qui le dis, et d'ailleurs la Cour des comptes l'a relevé aussi en critiquant fortement le fait qu'il y ait une disproportion, un gouffre, on dit certains, d'aide pour mettre en circuit et en promotion, finalement, les méthaniseurs. Finalement, au bout du bout, on estime aujourd'hui que la production, alors ce n'est pas moi qui l'estime, hein, ce sont les autorités, la production de méthane agricole coûte 4 à 5 fois plus cher que d'acheter du gaz naturel. Donc combien de temps ça va durer, je n'en sais rien, mais en tout cas les estimations, elles sont là. Et d'ailleurs, pour information, les Allemands ont décidé de fermer, de réduire finalement les subventions des méthaniseurs en Allemagne, et donc ça, c'est en train de s'écrouler, puisqu'évidemment, s'il n'y a plus de subventions conséquentes, eh bien, ça ne tient plus en Allemagne. Voilà pour ce qui est de la question des sous, qui n'est pas une petite question. Et pour finir, la question de est-ce que les méthaniseurs agricoles sont le bon échappatoire pour nos agriculteurs ? Faire du gaz est un changement de métier. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en plus comme ça. C'est véritablement un changement de métier. Et derrière ça, il y a toute la spirale de ce que va devenir finalement l'installation agricole qui va se tourner vers l'agriculture intensive pour rentabiliser ce méthaniseur avec un risque d'importation finalement de nos cultures agricoles qui vont avoir tendance à remplacer finalement ce qu'on met dans les méthaniseurs, puisque quand on met quelque chose dans le méthaniseur, quand c'est du blé, du seigle, etc., évidemment, ça modifie complètement le marché. Donc il y a une véritable question là-dessus. Et sous forme d'interrogation et pour terminer, si on regardait plutôt, est-ce que ça profite aux petits paysans pour l'instant ? Au retour d'expérience, ce n'est pas le cas. C'est plutôt les gros agriculteurs, les grosses. C'est racheté souvent par Total et compagnie, les grosses infrastructures. Et si aussi on s'intéressait vraiment à la formation des prix comme devenir pour nos agriculteurs ? Est-ce que les bonnes questions sont posées ? Voilà, je n'y réponds pas aujourd'hui, je me contente bien sûr d'essayer de mettre tout sur la table. Et vous l'avez compris, on y reviendra. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cléus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah ben si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.